Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RFI, il est 14h à Paris, midi en temps universel.
Diane Berger.
C'est RFI Midi, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information avec donc d'abord le journal. Le gouvernement israélien évoque une possible fin des combats à Gaza, cela dans le cadre des négociations qui ont repris hier à Doha avec le Hamas. Un début d'inflexion du discours alors que les bombardements sont toujours aussi meurtriers dans l'enclave palestinienne. Au sommaire de ce journal également, des élections cruciales en Europe ce dimanche. Le premier tour de la présidentielle polonaise, le second tour de celle en Roumanie. Nous vous emmenons sur place avec nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Et puis Kiev dénonce une attaque de drones record. L'armée russe a lancé la nuit dernière 273 engins contre l'Ukraine. Une femme a été tuée. Ensuite, vers 12h10, temps universel, ce sera le journal des sports. On ira également au Pérou à l'occasion de la messe inaugurale de Léon XIV, le nouveau chef des catholiques qui a passé de longues années à Chiclayo, où l'on célèbre son élection. Et puis on terminera cette demi-heure ensemble avec une étape au Festival de Cannes. Isabelle Chenu nous dévoilera les derniers temps forts de la croisette. Tous les hôpitaux publics du nord de Gaza sont hors service. C'est une annonce du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Les frappes israéliennes s'intensifient depuis plusieurs jours sur l'enclave palestinienne. La défense civile locale a également annoncé ce dimanche matin la mort de 33 Palestiniens, dont une majorité d'enfants. Israël menace toujours par ailleurs de lancer une offensive terrestre massive sur la bande de Gaza, en plus des bombardements. Et c'est donc dans ce contexte que des négociations ont repris hier à Doha, entre Israël et le Hamas. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Jérusalem. Et Michel, Israël vient donc d'annoncer ce qui semble être un assouplissement de sa position concernant la fin de la guerre à Gaza.
Oui, c'est une première. Il s'agit d'un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. L'équipe de négociation à Doha s'efforce d'épuiser toutes les possibilités d'accord, que ce soit dans le cadre du plan Witkoff ou bien dans le cadre d'une fin des combats qui inclurait la libération de tous les otages, l'exil des terroristes du Hamas et le désarmement de la bande de Gaza, peut-on lire dans ce texte. Alors, pas plus de précisions. Jusqu'à présent, Israël affirmait ne vouloir accepter que des changements mineurs et non substantiels. Le cabinet israélien de sécurité doit se réunir un peu plus tard cet après-midi pour entériner cette nouvelle approche et également pour autoriser l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. C'est le résultat direct des pressions américaines. En tout cas, Diane, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir le dit par avance, pas question de mettre un terme à la guerre.
Michel Paul, en direct de Jérusalem pour RFI. C'est une élection scrutée de près en Europe. Le premier tour de la présidentielle en Pologne, il a lieu aujourd'hui. La coalition libérale et pro-européenne de Donald Tusk espère récupérer le poste de président. Aujourd'hui, toujours aux mains du PiS, le parti conservateur qui contrôlait le gouvernement jusqu'en 2023. On retrouve sur place notre envoyé spécial en Pologne. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Daniel, vous êtes à Sandomir, une petite ville située dans le sud du pays.
Oui, petite ville de 20 000 habitants environ, avec son centre médiéval et son atmosphère de bourgade tranquille. C'est cette localité que le candidat libéral Rafał Trzaskowski a choisi pour réunir ses partisans ce soir. Un choix qui n'est pas anodin. Le maire de Varsovie veut en effet se défaire de son image de candidat élitiste lié aux classes moyennes de la capitale. Il a sillonné le pays durant la campagne, multipliant les prises de parole dans les zones rurales qui sont plutôt traditionnellement acquises au PiS, le parti conservateur. À noter que le candidat du PiS, justement, Karol Nawrocki, il a choisi lui aussi de fuir la capitale pour cette soirée électorale, qu'il passera à Gdansk, dans le nord du pays. Le troisième homme de ce premier tour sera lui ce soir à Varsovie. Il s'agit du candidat d'extrême droite, Slawomir Mentzen. Il y a deux mois, les sondages pouvaient laisser penser qu'il parviendrait peut-être à dépasser le candidat du PiS et à lui ravir la seconde place de ce premier tour. Très populaire sur les réseaux sociaux, Mentzen a séduit en particulier les moins de 30 ans, mais finalement, en raison notamment de déclarations très virulentes sur le droit à l'avortement, les intentions de vote en sa faveur ont nettement chuté. Son résultat sera néanmoins à surveiller à l'issue de ce premier tour, car ses électeurs joueront un rôle crucial, sans doute, lors du second tour dans deux semaines.
Merci beaucoup Daniel Valo, en direct donc de Sandomir, dans le sud de la Pologne, pour RFI. L'autre scrutin à la une de l'actualité ce dimanche, c'est le second tour de la présidentielle en Roumanie, entre le candidat d'extrême droite George Simion, arrivé largement en tête au premier tour, et le candidat pro-européen Nicu Jordan, qui a rattrapé son retard dans les sondages. Un point va sans doute être déterminant, c'est la mobilisation. Au premier tour, près de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. À midi ce dimanche, la participation était de 33%. Reportage à Bucarest de Muriel Paradon.
À la sortie de ce bureau de vote de Bucarest, beaucoup d'électeurs disent avoir choisi Nicu Jordan, l'actuel maire de la ville, pour devenir leur futur président. Daniela a 58 ans.
C'est un homme capable et intelligent. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour Bucarest et on espère qu'il fera de même pour la Roumanie.
Pour Octavian, un étudiant de 22 ans, voter pour Nicu Jordan, c'est surtout rester ancré à l'Union européenne. Son adversaire, l'ultranationaliste George Simion, représente un danger.
Je pense qu'il y a un danger imminent d'arriver du fascisme et de l'extrémisme. Et si on est isolé, on n'aura aucune chance à l'avenir. On a besoin, par exemple, dans un contexte de la guerre, d'investir dans notre armée pour pouvoir se défendre et continuer à aider l'Ukraine. Car cela veut dire assurer notre propre sécurité.
Decebal, 55 ans, lui, a voté pour George Simion. Il veut du changement et espère une amélioration du niveau de vie des Roumains.
L'inflation est importante et les salaires sont bas. Comme les salaires sont bas, on est obligé d'avoir plusieurs boulots. Je pense qu'il y aura un changement. Simion a promis un changement dans ce sens. Maintenant, on attend de voir.
Les premiers résultats de cette élection présidentielle en Roumanie sont attendus dans la soirée. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Et puis on vote également au Portugal aujourd'hui pour les législatives, les troisièmes en trois ans. Pour approfondir tous ces enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.rfi.fr. Vous y retrouverez tous nos dossiers. Et puis on reviendra également sur ces scrutins juste après le journal des sports avec notre invité, le politologue Christophe Bouillot. 14h07 à Paris. Léon XIV va recevoir cet après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'occasion de sa messe inaugurale ce dimanche au Vatican, le nouveau chef des catholiques a dénoncé ce matin le sort, je le cite, de l'Ukraine martyrisée, toujours dans l'attente de négociations pour une paix durable. En effet, les premières discussions entre Kiev et Moscou il y a deux jours n'ont pas été fructueuses et la nuit dernière, l'armée russe a envoyé une nouvelle salve de drones contre son ennemi, notamment sur la région de Kiev, où une femme a été tuée. Bonjour Mathias Troud.
Bonjour.
Les autorités ukrainiennes parlent d'une attaque record.
Et oui, 273 drones russes lancés sur plusieurs régions ukrainiennes, du jamais vu depuis le début de la guerre. L'armée ukrainienne affirme en avoir intercepté 88, tandis que les 128 drones leur n'ont atteint aucune cible. Mais les drones de combat qui ont trompé les défenses ukrainiennes n'ont pas épargné les civils, des immeubles d'habitation, des maisons ou des entreprises ont été éventrés, et vous l'avez dit, une femme a été tuée dans le district d'Obukhiv, au sud de Kiev. Le président américain Donald Trump a pourtant annoncé hier soir un appel avec son homologue russe. Il doit se tenir demain. Celui qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures tentera de peser auprès de Vladimir Poutine pour, je cite, « mettre fin au bain de sang ». Mais les négociations bilatérales à Istanbul vendredi ont déjà fait valoir des positions inconciliables. La réunion a duré moins de deux heures et la trêve voulue par Kiev a été balayée par une Russie arc-boutée sur l'annexion des territoires ukrainiens, des objectifs sur lesquels Vladimir Poutine a encore insisté ce matin sur la télévision d'État.
Merci beaucoup Mathias Troud. La province de Buenos Aires, touchée par des inondations, 7500 personnes ont dû être évacuées depuis vendredi dans le nord de l'Argentine. La région est touchée par des pluies quasiment ininterrompues ces derniers jours, près de 5 fois ce qui est attendu normalement au mois de mai. Qui, pour succéder à la présidence du parti Les Républicains en France, deux ténors du mouvement se battent, le député Laurent Wauquiez, chef de file du groupe à l'Assemblée nationale, et Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, donné favori. C'est aux 120 000 adhérents du parti de décider ce dimanche. Sarah Yasmine Diani, vous vous êtes rendue au siège du parti pour rencontrer quelques électeurs.
À quelques pas de l'Assemblée nationale, une poignée d'adhérents a fait le déplacement pour choisir le prochain leader de la droite. Et c'est Laurent Wauquiez et son ancrage local qui a convaincu cette adhérente.
Il est dans une région, il est très précis. Je trouve qu'il ne s'est jamais trop contredit. C'est quelqu'un d'intéressant, quoi. Enfin, de constructif.
Silver, 28 ans, est adhérent LR depuis 2012.
J'ai voté pour Bruno Retailleau aujourd'hui. Je pense que c'est celui qui est le plus à même à rassembler trembler la droite. Je pense qu'il l'a montré au ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'on en a besoin après tous les événements qu'on a connus dans le passé. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un rassemblement autour du gagnant, même si c'est Laurent Wauquiez. Il faudra qu'on soit tous rassemblés si on veut avoir une unité de la droite et gagner les élections derrière.
Un choix partagé par Jules et ses trois amis. Valise encore en main, ils sont venus de Lyon spécialement pour le congrès.
Aujourd'hui, on est sur des idées, plutôt sur une incarnation avec une parole forte, ferme, intransigeante sur des sujets sécuritaires, sur l'immigration, mais aussi avec une vision libérale de l'économie, à défendre le travail. On est sur le corpus de base de la droite, mais qui est bien incarné par Bruno Retailleau, et on souhaite qu'il gagne ce soir et on souhaite faire la fête avec lui.
Les électeurs LR ont jusqu'à 18h pour désigner le successeur d'Éric Ciotti.
Sarah Yasmine Ziani à Paris. Il est maintenant 12h10 en temps universel, c'est l'heure du journal des sports. Avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
À la une des sports, le football au lendemain de l'épilogue de la saison de la Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain est champion de France, ça ce n'est pas une surprise, c'était déjà fait. Le PSG qui a pu célébrer son titre hier au Parc des Princes en battant Auxerre 3 buts à 1. 19 points derrière au classement, Marseille, vainqueur de Rennes 4 à 2, termine deuxième et se qualifie pour la Ligue des Champions, tout comme Monaco qui complète le podium. Nice, quatrième, devra passer par les barres. Et derrière, c'est Lille qui obtient son ticket pour la Ligue Europa devant Lyon, qui de son côté jouera la Ligue Europa Conférence.
Soirée chargée en émotions hier pour les Lyonnais.
Ah oui, c'était la dernière du capitaine Alexandre Lacazette qui s'apprête à quitter le club à 33 ans. Le général a soigné sa sortie. Un doublé pour permettre aux Lyonnais de battre Angers 2-0. C'est 200 et 201e but sous le maillot de l'OL avant de sortir sous une haie d'honneur ovationnée par tout le stade. Avec en plus cette qualification pour la plus petite des Coupes d'Europe, soirée parfaite pour Alexandre Lacazette.
Clairement, on pouvait pas mieux rêver. Déjà l'accueil dès le début du match, forcément ça fait une semaine que les émotions sont là pour moi. Mais vraiment, le public a été incroyable avec moi aujourd'hui depuis l'échauffement. J'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux aussi, ça m'a touché. Et ouais, avec une victoire, deux buts, on passe la barre des 200, donc on pouvait pas mieux rêver.
Oh, la soirée parfaite, mais pas tant que ça pour Alexandre Lacazette, puisqu'on vient d'apprendre que son domicile avait été cambriolé pendant le match. Par ailleurs, les Lyonnais voient leur rival Saint-Etienne descendre en Ligue 2. Les Verts rejoignent Montpellier déjà relégué, tandis que Reims, 16e, jouera un barrage pour se sauver contre Metz.
Tous les championnats européens ne sont pas terminés. En Italie, le suspense reste entier à deux journées de la fin.
Naples ne compte qu'un petit point d'avance sur l'Inter Milan, qui, on le rappelle, jouera aussi la finale de la Ligue des Champions. Le Napoli se déplace à Parme à 18h45, temps universel. Au même moment, les interistes reçoivent la Lazio de Rome. En Angleterre, derrière Liverpool, futur champion, c'est la bataille pour l'Europe qui fait rage. Deux prétendants s'affrontent tout à l'heure dans cette avant-dernière journée. Arsenal, deuxième, qui accueille Newcastle, troisième. L'entraîneur Mikel Arteta espère faire plaisir aux supporters des Gunners.
C'est notre dernier match à domicile. C'est toujours un moment très spécial. Il s'agit aussi de se qualifier pour la Ligue des Champions, de nous placer en position de force pour la deuxième place. Et aussi, d'une certaine manière, de remercier tous nos supporters pour cette saison incroyable. À chaque déplacement, ils ont fait l'effort de voyager pour nous encourager. Et à la maison aussi. Je pense que c'est l'un des moments les plus forts de la saison, quand vous devez simplement les remercier et que eux peuvent exprimer ce qu'ils pensent de l'équipe.
Thank you to them and they can say what they feel as well about the team.
Arsenal Newcastle, coup d'envoi 15h30, temps universel.
On passe au basket avec un match très attendu ce soir par tous les fans de la NBA.
Le dénouement de la demi-finale de conférence entre Denver et Oklahoma City. Trois victoires partout pour l'instant entre les Nuggets et le Thunder, et donc ce match décisif pour les départager. Ce match est aussi un duel entre les deux meilleurs joueurs du monde cette année, les deux favoris pour le trophée de MVP, le Serbe Nikola Jokic, pivot de Denver, face au Canadien Shai Gilgeous-Alexander, arrière d'OKC. Ce dernier a hâte d'en découdre.
C'est une question de vie ou de mort. On vit pour ce genre de match. C'est pour ça qu'on a travaillé toute notre vie. C'est soit votre équipe continue, soit votre rêve s'arrête. Alors, il faut se donner à fond sur le terrain. Et tout va dépendre de ce résultat. Je suis impatient à l'idée de disputer un tel match.
Oklahoma-Denver, match 7, un horaire pas trop tardif, ça va faire plaisir à beaucoup de fans sur l'ensemble de la planète. 19h30, temps universel. Enfin, en tennis, à une semaine du début de Roland-Garros, le tournoi de Rome se termine avec la finale entre deux cadors, l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Italien Yannick Sinner. Premiers échanges, Diane, c'est à 15h, temps universel.
Merci beaucoup Victor Missistrano, c'était donc le journal des sports. Nous vous en parlions il y a quelques minutes. Les électeurs sont appelés aux urnes dans plusieurs pays d'Europe ce week-end. Le deuxième tour de la présidentielle en Roumanie, le premier tour en Pologne, les législatives aussi au Portugal. Chaque scrutin a évidemment ses enjeux spécifiques, mais il y a un point commun en toile de fond à tous ces scrutins. C'est à chaque fois la montée de l'extrême droite. Notre invité ce dimanche pour en parler est professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Bonjour Christophe Bouillot.
Bonjour.
Ces extrêmes droites que l'on voit monter un peu partout en Europe, est-ce que déjà ce sont à chaque fois des mouvements très proches? Est-ce qu'on peut les comparer? Et est-ce que ces extrêmes droites montent pour les mêmes raisons?
Alors, ils sont tous idéologiquement proches, au sens, ils ont tous le même discours contre l'immigration extra-européenne, et ils ont tous la peur, effectivement, de voir la société européenne se changer profondément culturellement. Donc, ils sont tous conservateurs, etc. Ils ont tous un fond commun. Après, probablement, ils ont des différences, en particulier sur leur attitude vis-à-vis de la Russie, de Vladimir Poutine. Clairement, certains sont très alignés sur le discours de Vladimir Poutine, d'autres sont carrément opposés. Alors, parmi les partis les plus opposés à Vladimir Poutine, il faut parler en particulier du parti polonais qui s'appelle Droit et Justice, dont le président sortant ne peut pas se représenter, mais il a un candidat très bien placé pour le remplacer lors de ses présidentielles polonaises, qui est un parti effectivement très très hostile à Vladimir Poutine et à l'action de la Russie. Et inversement, pour citer un parti qui est très favorable au discours de Vladimir Poutine, il y a le Parti de la Liberté en Autriche, le FPÖ, qui lui évidemment est un parti complètement aligné sur le discours de Vladimir Poutine. Donc il y a un peu deux pôles qui correspondent en fait à deux réseaux au sein de l'extrême droite européenne, l'un et qui peut parfois être présent simultanément dans le gouvernement national, comme en Italie. Vous avez effectivement en Italie un gouvernement de Giorgia Meloni proche du réseau polonais. Et de l'autre côté, il y a son allié Matteo Salvini, qui est un allié très, très proche de Vladimir Poutine.
Oui, donc on voit bien que l'extrême droite en Europe n'est pas un bloc homogène, même si ce ne sont pas non plus des chapelles complètement séparées les unes des autres. On voit aussi qu'elle monte de manière très régulière depuis plusieurs dizaines d'années. Mais ces derniers temps, on constate quand même une accélération du mouvement. Est-ce que l'élection de Donald Trump a joué un rôle d'accélérateur dans cette progression et cette forme presque de banalisation de l'extrême droite ?
Oui, alors la raison de fond de longue durée de la montée de l'extrême droite en Europe, c'est effectivement la crise vécue par les classes populaires européennes, les classes moyennes européennes, qui depuis la crise des années 70 voient échapper les fruits de la croissance. La croissance économique a beaucoup diminué et surtout elle est très inégalement répartie, à la fois socialement et géographiquement. Et là finalement, Trump est exactement sur le même modèle aux États-Unis, où effectivement il représente quand même la revanche des exclus de cette croissance économique néolibérale depuis les années 70. Donc effectivement, on retrouve exactement le même profil d'électeurs et le même genre de politiciens en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, des gens qui essayent de mobiliser ces laissés pour compte de la croissance néolibérale. Il y a 50 ans, ces laissés pour compte auraient été votés des électeurs communistes, probablement. Aujourd'hui, ce sont des électeurs des extrêmes droites partout protestent sur le fait que, comme la croissance, vous dites, il n'y en aura pas pour tout le monde, eh bien, ils disent, puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde, d'abord, mettons les étrangers dehors, excluons un certain nombre de gens du festin, et il y en aura peut-être pour moi.
Oui, et vous avez mentionné tout à l'heure le cas de Giorgia Meloni, l'extrême droite est donc déjà au pouvoir en Italie. Il y a aussi Viktor Orban en Hongrie. En Roumanie, George Simion tient des discours très virulents contre l'Europe. Il pourrait arriver au pouvoir ce soir. Quel scénario peut-on imaginer si voilà un pays de plus passe dans les mains de l'extrême droite? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de bascule au niveau de la gouvernance européenne?
Alors, pour l'instant, Non, parce que les règles de vote au niveau de l'Union européenne privilégient quand même le poids démographique des grands pays. Certes, la Roumanie est un pays avec une vingtaine de millions d'habitants, mais au sein des règles de vote du Conseil, ça ne peut pas faire complètement basculer la majorité. En fait, la majorité reste quand même en main des grands pays européens, c'est-à-dire des quatre grands, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, Espagne. Tant que ces quatre pays-là sont globalement alignés sur une politique de soutien à l'Ukraine, rien ne changera vraiment.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Bouillot pour ces explications. Vous êtes, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Merci monsieur. Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés place Saint-Pierre à Rome aujourd'hui pour la messe inaugurale du nouveau pape Léon XIV. Élu il y a 10 jours, il a critiqué aujourd'hui dans son homélie les excès du capitalisme. Léon XIV, qui est de nationalité américaine mais aussi péruvienne, et dans son diocèse de Chiclayo, dans le nord du Pérou, tout le monde a célébré donc l'élection de Robert Francis Prévost, très apprécié dans la région. Sur place, Martin Chabal a pu le constater.
Tout le monde connaissait le père Robert à Chiclayo. Celle qui était connue comme la ville de l'amitié est maintenant rebaptisée la ville du pape Léon XIV. Impossible de passer à côté de cette information, son visage a été affiché partout. À Chiclayo, chacun a son souvenir avec celui qui est désormais pape. Nino Onofre se rappelle des moments passés à l'église.
Je l'ai rencontré juste ici, il donnait la bénédiction après la messe. Nous nous approchions tous de lui pour recevoir sa bénédiction. Chiclayo est une ville très catholique.
Rocio, elle, est venue avec des photos devant cette grande cathédrale couleur pastel construite d'après les plans et les dessins de Gustave Eiffel.
Regarde, là, tu as maman, et là, c'est le pape. Sur celle-là, il y a ses petits-enfants, ça c'est mon fils, à côté du pape.
En 10 ans, Robert Francis Prévost aura marqué les esprits ici. Tous se souviennent d'un homme proche de ses fidèles et humble. Pour Nino Onofre, Chiclayo a profondément marqué le pape et en a fait l'homme qu'il est aujourd'hui.
Ici, on dit que le peuple de Chiclayo a 3 caractéristiques. Déjà, il est très aimable, généreux et joyeux, comme le pape. La deuxième chose, c'est notre cuisine, ancestrale et délicieuse. Et enfin, notre culture.
Les Péruviens sont très fiers de leur gastronomie et tous les Chiclayanos ont une anecdote culinaire avec le pape. Si certains ont partagé leur pain avec lui dans son restaurant préféré à côté de la cathédrale, Nino se souvient de son petit péché mignon.
Le pape allait souvent manger un gâteau à la poire à la plage. Maintenant, il l'appelle le gâteau du pape. Tu vas là-bas, tu commandes ça, et tu as le gâteau à la poire préféré du pape.
Devant la cathédrale de Chiclayo, on a placardé des affiches sur Léon XIV, notamment avec son profil. Il est écrit qu'il est connu pour sa nature affable, modérée et pastorale. Il combine le pragmatisme américain avec la sensibilité latino-américaine forgée au Pérou. Et après, on parle des langues qu'il domine. Il y a bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais. Et il a écrit aussi le quechua, très important ici quand on habite au Pérou.
Cette élection est vécue par certains comme une lueur d'espoir dans une situation politique nationale très compliquée. La courbe de popularité de la présidente Dina Boluarte frôle les 0% dans tout le Pérou. Antonio, venu célébrer Léon XIV dans une messe en plein air en l'honneur du souverain pontife, espère que ça pourra faire changer les choses.
Il connaît notre réalité. Il a déjà critiqué l'ex-président Fujimori. Il a soutenu les manifestations contre le gouvernement. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle.
Parmi la foule réunie sur la place principale de Chiclayo, quelques fidèles se permettent de croire en une visite du pape dans son diocèse d'origine. Et un voyage pontifical avant l'élection présidentielle prévue l'an prochain pourrait influencer les sondages. Martin Chabal, Lima, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Vous écoutez RFI Midi.
12h23, en temps universel, c'est l'heure de la chronique Ligne de défense. Et il y a un point saillant, une leçon que les armées peuvent tirer de la guerre en Ukraine. Quand on ne maîtrise pas l'espace aérien, l'artillerie joue un rôle primordial pour frapper loin de la ligne de front. Or, pour l'armée française, problème, les systèmes qui équipent les forces seront bientôt obsolètes. Franck Alexandre, c'est une mission d'information de l'Assemblée nationale qui pointe le problème.
Un trou capacitaire est à redouter, disent les députés. Jusqu'à présent, les feux dans la profondeur étaient l'apanage de l'armée de l'air. Mais la démocratisation des défenses antiaériennes fait désormais planer un véritable doute sur les chances de l'aviation à pouvoir franchir les bulles de déni d'accès. Pour s'affranchir de ces barrières, l'artillerie roquette est donc redevenue centrale, souligne Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
On a besoin à la fois d'une puissance de feu dans la profondeur qui ne soit pas aérienne, mais en plus de ça, on a besoin d'une puissance de feu qui soit en fait beaucoup plus cheap, ou du moins qui a des effets de neutralisation qui sont plus vastes. Tout notre modèle quand même depuis la guerre froide, c'est comment on arrête des chars russes. On passe là à 3-4 cibles bien identifiées, à une centaine de fantassins qui courent dans tous les sens. Maintenant, on le voit en plus sur des motos, etc. Jamais on a le volume de feu pour traiter ça. Et donc c'est pour ça en fait qu'on revient à une logique roquette.
Armé par le 1er régiment d'artillerie de Belfort, les 9 derniers systèmes LRU pour lance-roquettes unitaires arriveront en fin de vie en 2027. Cette faiblesse, Turgis et Gaillard l'a identifiée il y a 2 ans. En mode agile, cette entreprise de taille intermédiaire vient donc proposer un système appelé Foudre. Turgis et Gaillard s'est déjà fait remarquer avec l'AROC, un prototype de drone de reconnaissance et d'attaque longue distance, rappelle la présidente Fanny Turgis.
En présentant à la fois notre drone AROC et également ce lance-roquette qui est sorti très rapidement, on veut montrer que on a la capacité de pouvoir aller faire de la reconnaissance avec un système aérien, mais on a également développé la capacité de faire de la frappe dans la profondeur et que toutes ces plateformes peuvent communiquer entre elles.
Deux consortiums, Safran MBDA d'un côté, Thales Ariane Group de l'autre, développent également des projets de systèmes d'artillerie roquette. Et si l'un des projets n'aboutit pas, les armées seront contraintes d'acheter ce matériel sur étagère et à l'étranger, alerte le député Jean-Louis Thieriot.
La plupart des pays européens ont déjà passé des commandes, que ce soit d'Aimas, de Pulse ou de les Polonais qui ont acheté coréens. Ça veut dire que les chances de succès commercial sont limitées. Donc, faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est stratégique? C'est d'être capable de produire de la roquette sur le territoire national, éventuellement sous licence. Qu'est-ce qui l'est moins? C'est le châssis, puisque ça, il n'y a aucun saut technologique dedans.
La roquette n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'artillerie longue portée, rappelle Vincent Touré, et le chercheur de souligner qu'en Ukraine, les drones d'attaque longue distance ont prouvé leur efficacité à moindre coût.
C'était Franck Alexandre pour la chronique Ligne de défense. On termine cette demi-heure ensemble à Cannes pour le célèbre Festival international de cinéma. 22 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Les derniers temps forts du festival avec notre envoyée spéciale Isabelle Chenu.
Robert Pattinson et Jennifer Lawrence ont électrisé les marches, signant des autographes, se prêtant au jeu des selfies. Le duo de mégastars est à l'affiche de Die My Love, film en compétition de la Britannique Lynn Ramsey. À 39 ans, Robert Pattinson est au sommet de sa gloire depuis déjà 2 décennies, découvert dans Harry Potter et Twilight, tout comme l'américaine Jennifer Lawrence, révélée toute jeune dans la saga Hunger Games. Lynn Ramsey leur offre 2 très beaux rôles, un couple de parents confronté à la maladie mentale de la jeune mère. Le néo-western Eddington, signé Ari Aster, dresse le portrait d'une ville américaine en post-Covid, projection d'une Amérique en décomposition, gangrénée par le complotisme et l'ultra-violence, avec Joaquin Phoenix en shérif disjoncté. Pendant la conférence de presse du film, l'acteur Pedro Pascal, star des séries The Last of Us et Narcos, a appelé le cinéma à ne pas se laisser intimider par Donald Trump.
Quand on a peur, ça veut dire que les autres ont gagné. Il faut continuer à se battre, il faut continuer de raconter des histoires. C'est la seule façon pour ne pas se laisser intimider. Et que ceux qui essayent aillent se faire voir. Il ne faut pas que ces gens-là prennent le dessus. Ne les laissons pas gagner, ne les laissons pas gagner.
Les festivaliers et le jury ont aussi pu découvrir Renoir, de la japonaise Chie Ayakawa, un film tout en délicatesse, le Japon de la fin des années 80, vu par les yeux d'une fillette de 11 ans qui apprivoise par l'imagination et la curiosité sa solitude, tandis que son père est en train de mourir d'un cancer.
Il se trouve que j'ai
J'ai eu un père malade, atteint d'un cancer, et que de mon enfance jusqu'à une vingtaine d'années, j'ai vu mon père souffrir, se battre contre la maladie, attendre la mort d'une certaine manière. Je crois que ça a beaucoup marqué mon esprit et peut-être mon rapport au monde.
Plus joyeux et malin, Nouvelle Vague, film tourné en français de l'américain Richard Linklater, ressuscite en noir et blanc tous les protagonistes de la Nouvelle Vague du cinéma français des années 60. Il retrace avec humour et virtuosité le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Isabelle Chenu, Apolline Verlon, Cannes, RFI.
Fin de cette demi-heure ensemble. Merci beaucoup d'écouter RFI. Arthur Geoffroy à la réalisation, Charlotte Hydrac à la rédaction en chef. Et dans un instant, c'est Simon Bourtembourg qui prend le relais pour Afrique Midi.